Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série très importante concernant la prière. Aujourd'hui, nous en sommes à l'étude numéro 7 et les trois thèmes seront les suivants. Premièrement, le secret de l'ennemi invisible. Deuxièmement, le secret de l'origine du pouvoir de la prière. Et troisièmement, le secret de la foi qui déplace les montagnes. La prière est une lutte spirituelle. Des ennemis spirituels invisibles, mais bien réels, se liguent contre nous. Si notre vie de prière n'est pas vigoureuse, nous sommes plus ou moins à la merci de ces puissances invisibles. Je répète, si notre vie de prière n'est pas vigoureuse, réelle, alors nous sommes plus ou moins à la merci des puissances invisibles. Et ceux qui ne prient pas sont poussés par des forces malfaisantes dont ils ignorent généralement l'existence. Peu de chrétiens reconnaissent l'ingérence de ces puissances maléfiques dans toutes nos affaires humaines. Les gens se préoccupent principalement de la chair et du sang, mais ils utilisent en majorité leur force à lutter contre ce qu'ils voient seulement. Ils n'ont pas conscience que la chair et le sang ne sont pas les véritables ennemis. Dès que ces ennemis du monde des ténèbres sont muselés, le chrétien découvre que les agents humains, au travers desquels ils agissent, n'ont plus aucune importance. Saint Paul a indiqué la nature du combat chrétien, disant que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les souverains de ce monde de ténèbres. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits pervers qui sont dans les régions célestes. Et puis il a énuméré la panoplie des armes dont nous avons besoin pour mener les combats et en sortir vainqueurs. Notez sérieusement Éphésiens chapitre 6, verset 12 jusqu'au verset 18. Voyez-vous, nous ne devons jamais oublier que la prière, c'est une lutte contre Satan. Ainsi équipés, nous devons affronter Satan. La Bible nous dit, par toutes sortes de prières et de demandes, « Priez à tout moment en esprit, et pour cela soyez vigilants avec une entière assiduité, et priez pour tous les saints. » Éphésiens chapitre 6, verset 18, selon une version allemande. Mais rassurez-vous, la version de Louise Gon, elle dit à peu de choses la même chose. Ce sont simplement des fois un mot qui est traduit par un synonyme différent. Chers amis, nous luttons contre un ennemi réel qui cherche constamment à s'engouffrer dans la moindre brèche. Ainsi, par exemple, au temps de Job, il est dit « Un jour, que les fils de Dieu venaient se présenter devant l'Éternel, le Satan vint aussi parmi eux. » Job chapitre 1 verset 6. Satan se présentait dans l'intention évidemment de nuire. Et Dieu avait aussi un plan et il a laissé tomber pour un temps la muraille qui protégeait Job. Et Satan agissait donc à sa guise. Il a poussé les Sabéens à attaquer et à assassiner les serviteurs de Job. Il a fait tomber la foudre sur ses brebis qui les a brûlés. Il a fait venir un grand vent provoquant l'écroulement carrément de la maison de Job, où mangeaient et buvaient ses fils et ses filles. Et puis Satan frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, selon Job chapitre 2, verset 7. Job ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. Il a simplement dit ceci, « Nous recevons de Dieu le bien, et pourquoi nous n'en recevrions pas le mal ?» Job chapitre 2, verset 10. En effet, Dieu avait donné, mais Satan, il ôtait. Oui, que de choses surprenantes nous verrions si nos sens pouvaient discerner ce qui se passe vraiment dans les cieux. La Bible nous donne une idée de ce qui a lieu dans le monde spirituel. Par exemple, Daniel au chapitre 10, là, il nous permet d'entrevoir les fonctions de Satan à l'échelle mondiale. L'un des lieutenants de Satan y est décrit comme le chef carrément du royaume de Perse, le véritable dirigeant d'une nation, et ni un roi, ni un président humain, mais le souverain, un prince du monde des ténèbres. Ce puissant souverain des esprits mauvais dirige une légion d'esprits subalternes chargés d'exécuter ses consignes. Et grâce à eux, Satan maintient son royaume et parvient à tromper les hommes. Alors que Daniel priait, 3 ans s'étaient écoulés depuis le retour du premier groupe de Juifs à Jérusalem, et ceci grâce aux prières gracieusement exaucées. Cependant, Daniel a appris que tout n'allait pas pour le mieux. Les tracas continuels que subissaient les Juifs dans leur patrie constituaient un présage de mauvais augure. Daniel s'est demandé quel serait le destin de sa nation pour les générations suivantes. Il se souciait du bien-être de son peuple affligé. Ah oui, il désirait connaître ce qui résulterait des événements dans les siècles à venir. Et ses pensées le préoccupaient tellement qu'il en consacrait, il a vraiment consacré son temps à la méditation et à la prière pour demander à Dieu de lui dévoiler carrément l'avenir. Daniel avait l'habitude que ses prières soient exaucées. Cependant, la réponse se faisait attendre, mais, voyez-vous, le prophète n'a pas cédé au découragement, absolument pas. Il s'est adonné à la prière et au jeûne, et il avait pour règle de persister jusqu'à être exaucé. Alléluia. Pourtant, voyez-vous, les jours passaient sans que le moindre indice indique que Dieu était à son écoute. 3 semaines se sont ainsi écoulées. Et puis, le 24e jour, quelque chose s'est vraiment produit. Un ange de Dieu a subitement fait irruption dans sa chambre, selon le témoignage de l'ange. Dieu avait bien entendu, en effet, il avait entendu la pétition de Daniel dès le premier jour déjà et avait dépêché son ange. Mais une puissance extrêmement rusée, c'est-à-dire le chef du royaume de Perse, lui avait résisté. Et l'ange a dit « Ne crains pas, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'affliger devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et moi je suis venu à cause de tes paroles. Mais le chef du royaume de Perse, lui, il m'a résisté, et ceci pendant 21 jours. Et voici que Michaël, un des premiers chefs, est venu à mon secours. ou si je l'ai laissé là auprès du chef des rois de Perse, et je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple. » Daniel, chapitre 10, versets 12 à 14. Voilà peut-être l'une des révélations les plus remarquables de l'Ancien Testament. Ce verset 10, en effet, tous ces versets nous disent quoi ? Ils nous mettent en évidence une vie singulière dans le monde invisible qui est au-dessus de nous. Il ne faut pas comprendre que le chef du royaume de Perse est le dirigeant humain de la Perse, qui n'aurait certainement jamais eu le pouvoir de résister à un ange. Mais pas du tout. Il faut plutôt envisager qu'il s'agit d'un prince des esprits, agissant sous les directives de Satan. Ce ne sont pas les souverains humains qui gouvernent véritablement, mais ce sont les principautés invisibles qui habitent dans les lieux célestes. Ça change tout. Ces derniers décident de l'issue de nombreux événements dans le monde des nations, mais toujours dans la mesure où Dieu le permet. Il est vrai qu'il existe un royaume spirituel où sont les principautés et les souverains du monde des ténèbres. Chaque nation est gouvernée par un esprit invisible. Chaque royaume de la terre est sous la domination des forces organisées de Satan qui cherchent à le soumettre entièrement à leur volonté. Luc, Saint Luc, a indiqué que le monde est sous l'entière domination de Satan. Satan a parlé à Jésus-Christ et l'amenant plus haut, il lui montra en un instant tous les royaumes du monde. Et le diable lui dit, « Je te donnerai à toi tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, parce que elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. » Saint Luc, chapitre 4, versets 5 et 6. En effet, des princes subalternes également, dotés d'armes, on peut dire carrément des armées de démons, œuvrent sous l'égide de Satan. Je répète, il y a en effet des princes subalternes, des entités de puissance qui sont également dotées d'armées, carrément des armées entières de démons sous leur ordre, œuvrant donc sous l'égide de Satan. Et tous travaillent dans l'unique objectif de maîtriser carrément toute l'intelligence humaine. Ceux qui imaginent que l'homme s'est développé à partir d'espèces inférieures et qu'à l'avenir, une race supérieure créera son propre millénaire, eh bien, il se trompe lourdement. Les efforts humains pour améliorer la race sont totalement vains et impuissants. Seule la prédication de la bonne nouvelle peut changer la nature dégénérée de l'homme. Les puissances spirituelles ne peuvent être chassées que par le moyen de la guerre spirituelle. La puissance du chef du royaume de Perse est démontrée par le fait qu'il parvient à résister à l'ange pendant 3 semaines. Seuls les renforts qui ont été envoyés par Dieu, représentés par l'archange Michel, ont été capables de faire céder les puissances des ténèbres. Et ce chef du royaume de Perse s'offusquait que son autorité soit bousculée et il opposait une forte résistance à cette intrusion dans son domaine. Néanmoins, voyez-vous, Daniel a persisté dans sa prière et Dieu l'a exaucé parce que il a persisté. Nous devons jamais abandonner la partie. la puissance de l'Esprit de Dieu a fini par vaincre les puissances des ténèbres. Que serait-il arrivé si Daniel avait cédé au découragement? La réponse à cette question est sans ambiguïté. La foi de Daniel dans la prière a produit un puissant effet sur le résultat de la lutte dans les lieux célestes. Voyez-vous, on peut dire uniquement parce que il a persévéré dans la prière que le chef du royaume de Perse a été vaincu. Un excellent exemple du conflit que l'on doit parfois affronter contre les principautés et souverains du monde des ténèbres a été illustré sur un vaisseau en pleine mer. En effet, Charles Finet, très connu par ses livres, était à bord faisant route vers l'Europe, sa patrie d'origine. Il y a en effet là quelque chose d'intéressant, car Finet a intercédé pour un réveil spirituel. Et pendant plus de 10 ans, il avait pris part à une série de réveils spirituels qui avaient profondément bouleversé l'Amérique. Mais l'excès de travail avait eu raison de sa santé et il entreprenait le voyage pour reprendre des forces. Alors qu'il se reposait, il a appris qu'un soulèvement contre l'esclavage agitait toute l'Amérique. Finet a eu peur que cette confusion retarde un réveil spirituel. Alors il a raconté comment l'Esprit Saint, l'Esprit de la prière, est carrément entré en lui et comment Dieu a exaucé ses prières. Voici son témoignage. Pendant la traversée qui me conduisait chez moi, je réfléchissais beaucoup à propos de la question des réveils spirituels. Je craignais qu'ils soient en régression partout. Aussi, ma santé semblait bien altérée et je ne connaissais aucun autre évangéliste qui puisse partir en campagne et aider les pasteurs dans l'œuvre du réveil spirituel. Un jour, je ne parvenais pas à me reposer, alors mon âme était en proie aux pires angoisses. Oui, j'ai passé presque toute la journée à prier dans ma chambre ou sur le pont. J'étais vraiment accablé par le poids qui pesait sur mon âme. Il n'y avait à bord personne, absolument personne à qui je puisse parler. C'était l'Esprit Saint de la prière qui était sur moi. Quelque chose que j'avais déjà ressenti, mais jamais aussi longtemps et avec une telle intensité. Aussi, j'ai demandé au Seigneur de continuer son œuvre et de pourvoir à des serviteurs comme il se devait. Après une journée de lutte et de souffrance exténuante de l'âme et de l'esprit, la question s'est éclaircie. L'Esprit Saint m'a soufflé que tout irait bien et que Dieu avait encore une grande œuvre à laquelle il voulait me faire participer. Ensuite, je pourrais me reposer et le Seigneur continuerait son œuvre. On peut se demander s'il était nécessaire que Finet lutte tellement dans la prière aussi longtemps. Le Seigneur ne pouvait-il pas l'exaucer immédiatement? La réponse est qu'il fallait préalablement remporter une victoire dans les lieux célestes. Avez-vous bien compris cela? Satan, il résistait au grand réveil. C'était un moment décisif. Si le diable parvenait à décourager Finet avant que le combat spirituel soit gagné, alors vous pouvez bien comprendre, il pourrait stopper le réveil. Mais Finet, comme Daniel, a continué à lutter jusqu'à ce que Dieu ait envoyé des renforts. Une journée s'était écoulée et puis le grand réveil spirituel pouvait avoir lieu. Charles Finet a raconté le réveil spirituel s'est propagé rapidement à travers tout le pays avec une telle force qu'on a rapporté le nombre d'environ 50 000 conversions en une seule semaine. Des réunions de prière ont été mises en place d'un bout à l'autre des États du nord de l'Amérique. Voyez-vous, si ce réveil aurait eu lieu également dans les États du sud, alors la guerre de sécession aurait probablement été évitée. Il semble que personne dans les États du sud de l'Amérique ne pouvait lutter dans la prière comme l'avait fait Finney. Ce besoin d'un homme qui puisse intercéder jusqu'à être exaucé, cela rappelle les paroles de Dieu. Quand il dit « J'ai cherché parmi eux un homme qui construisit un mur et se tint sur la brèche devant moi en faveur du pays pour m'empêcher de le détruire, mais je n'en ai pas trouvé. Et j'ai répandu sur eux mon courroux, ma colère, avec le feu de mon emportement, je les ai exterminés. J'ai donc fait retomber leur conduite sur leur tête. » Ézéchiel, chapitre 22, versets 30 et 31. Voici donc un autre secret de la prière qui fait déplacer les montagnes. Nous n'avons pas à lutter, comme vous l'avez compris, contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les souverains des lieux célestes. Oui, en effet, des montagnes spirituelles, c'est-à-dire des royaumes spirituels, nous résistent. Si nous restons constants dans la prière, alors Dieu nous enverra les renforts nécessaires à notre victoire. N'acceptez donc jamais l'échec ou la défaite, même si votre prière tarde à être exaucée, croyez-moi, elle le sera assurément. Celui qui voudrait faire soulever et déplacer des montagnes ne doit pas se laisser lui-même déplacer, évidemment. Deuxièmement, chers amis, nous avons le secret de l'origine du pouvoir de la prière. La Bible nous dit « Et tout ce que vous demanderez en mon saint nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. » Saint Jean chapitre 14, verset 13. Chers amis, nous avons parlé du pouvoir illimité accessible à ceux qui prient. Et nous avons dit que, par la foi, le croyant peut faire déplacer les montagnes qui lui barrent le passage. Il était inévitable d'en arriver à la question suivante. Qui détient le pouvoir par lequel il est possible de s'adresser à une montagne et de lui dire « Soulève-toi » ? Qui détient le pouvoir par lequel il est possible de commander aux éléments et d'en être obéi ? Et nous savons que l'univers est gouverné par l'ordre et par la loi de Dieu. Et les anges aux cieux se conforment à cette loi. Même les démons la reconnaissent et la respectent. Les pharisiens savaient très bien que les miracles ne pouvaient s'accomplir que par quelques entités supérieures. Constatant la puissance des œuvres de Jésus-Christ, ils étaient fort embarrassés. Par quel pouvoir accomplissait-il toutes ces choses? Ils ont donc décidé de lui poser la question. Le pouvoir de Jésus-Christ, d'où vient-il? Le jour même où Jésus-Christ avait parlé à propos de la foi dans Matthieu chapitre 21, versets 21 et 22, les pharisiens se sont avancés vers lui pour le questionner. Apparemment, il s'exprimait encore à ce propos lorsque les pharisiens sont venus. Jésus-Christ avait parlé du pouvoir de faire déplacer une montagne. Il avait dit, si vous avez de la foi et que vous n'hésitez pas, si vous dites à cette montagne, soulève-toi et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Saint Matthieu, chapitre 21, verset 21. Qui donc l'avait investi? Oui, qui l'avait investi d'un tel pouvoir? Les pharisiens se sont alors adressés à Jésus-Christ. Oui, dis-nous, par quel pouvoir fais-tu tout cela? Et qui t'a vraiment donné tout ce pouvoir? Saint Matthieu, chapitre 21, verset 23. Eh bien, la réponse de Jésus-Christ n'a pas donné satisfaction aux orgueilleux pharisiens, malheureusement pour eux. Refusant de combler leur curiosité, il leur a rétorqué par une question trop embarrassante pour qu'ils y répondent. « Je vais moi aussi vous demander une seule chose, et si vous me la dites, eh bien, moi aussi, je vous dirai par quel pouvoir je fais tout cela. » Le baptême de Jean, rappelez-vous, d'où est-il? Est-ce qu'il est du ciel ou des hommes? Saint Matthieu, chapitre 21, verset 24. Alors les pharisiens, très frustrés, sont repartis remplis de colère et de ressentiment envers Jésus-Christ. Néanmoins, Christ avait déjà révélé le secret de son pouvoir. Il avait dit précédemment, « Moi, je suis venu au nom de mon Père. » Saint Jean, chapitre 5, verset 43. Donc, il accomplissait des miracles parce que quoi? Parce que son Père lui en avait donné le pouvoir. Il ressuscitait des morts parce que son Père l'avait investi de cette autorité. De même, en effet, que le Père relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils fait vivre qui il veut. De même, en effet, que le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné pareillement au Fils d'avoir la vie en lui-même. Je répète, de même que le Père a la vie en lui-même. Ainsi a-t-il donné pareillement, a-t-il donné tout cela à son Fils bien-aimé d'avoir la vie en lui-même. Je ne puis, moi, rien faire de moi-même, a-t-il dit, parce que je ne cherche pas ma volonté à moi, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Saint Jean, chapitre 5, versets 21, 26 et 30. La provenance du pouvoir de Jésus-Christ n'était pas tenue secrète. Il avait reçu tout cela de son Père. Gloire à Dieu. Chers amis, voyez-vous le pouvoir du croyant? Oui, comment peut-il l'obtenir? Ce pouvoir. Comment? Alors là, nous arrivons à une question identique. Jésus-Christ tenait son pouvoir, rappelez-vous, de son Père. Mais d'où le croyant, d'où vous et moi pouvons obtenir ce pouvoir? Est-ce directement du Père, comme pour Jésus-Christ? Non, absolument pas. Personne, hormis Jésus-Christ, n'est digne d'approcher le Père. Tous ceux qui viennent au Père doivent approcher Dieu par Jésus-Christ. Moi, je suis le chemin et la vérité, dit-il. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Et personne ne vient vers le Père que par moi. Saint Jean, chapitre 14, verset 6. Donc, le pouvoir de délivrer les hommes, le pouvoir de guérir les malades, le pouvoir d'affranchir les hommes de la servitude, tout ce pouvoir doit venir par le Seigneur Jésus-Christ. Ici, vraiment, est le secret de la prière du Nouveau Testament. Ici aussi est le secret du pouvoir du croyant. Tout ce que nous détenons arrive par Jésus-Christ. Il n'y a de salut, il n'y a de guérison, il n'y a de pouvoir sur Satan que par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus seulement et par l'autorité de ce saint nom. Voyez-vous, lorsque Jésus-Christ a été ressuscité et enlevé vers le Père, les disciples ont commencé à accomplir les œuvres puissantes que Jésus-Christ avait commandées. Aussi, les pharisiens ont entendu parler de ce qui se passait. Ils sont venus vers l'apôtre Pierre et Jean, après que ces derniers aient guéri les boiteux de la belle porte du temple, et ils les ont questionnés. Mais par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait tout cela? Actes chapitre 4, verset 7. Et Saint-Pierre a répondu, « Sachez-le, sachez-le vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, que c'est par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Nazaréen, que vous avez crucifié, oui, vous l'avez crucifié, et que Dieu a relevé d'entre les morts. Donc, c'est par ce Jésus-Christ, par ce Nazaréen, c'est par lui que cet homme se présente devant vous en pleine santé maintenant. Et le salut n'est en aucun autre, jamais aucun autre, ni en Bouddha, ni en Mahomet, etc. Car il n'est pas sous le ciel, quoi? Il n'est pas sous le ciel d'autres noms, ni Bouddha, ni Mahomet, etc. donnés chez les hommes par lesquels nous devrions ou nous devions être sauvés. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 10 et 12. Et croyez-moi, la Bible ne ment pas. En permettant donc à ses disciples de servir ce saint nom, se servir du saint nom de Jésus-Christ, eh bien Jésus-Christ leur a donné quoi? Il leur a donné la procuration. Et oui, il leur a délégué toute son autorité. Et lorsqu'il se servait de son pouvoir, c'était comme si Jésus-Christ lui-même, comme s'il était là, près de l'évangéliste ou près de vous, pour utiliser cette puissance. Comme le Père m'a envoyé, alors moi aussi, je vous envoie maintenant. Saint Jean chapitre 20, verset 21. De même que Christ a reçu autorité du Père, les disciples l'ont reçu de Christ. Il leur a transmis cette autorité. En accordant l'usage de son saint nom aux disciples, il leur a donné un pouvoir illimité. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été donné au Seigneur Jésus-Christ, et donc tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a aussi été donné à ses disciples. Si les chrétiens semblent avoir si peu de pouvoir dans leur vie, ce n'est pas parce que le pouvoir n'est pas disponible, mais pas du tout, mais parce qu'ils ne savent pas s'en servir. Si un personnage richissime, disposant de fonds bancaires illimités, au Liechtenstein, pourquoi pas, nous confie un carnet de chèques, après avoir signé, par exemple, chacun des chèques qui sont dans le carnet, et qu'il dit « Servez-vous à votre guise ». Est-ce que cela nous soulagerait-il avant que nous soyons passés à la banque pour les encaisser? Je pense que oui. Donc, le pouvoir accordé par notre Seigneur est immense, mais il ne peut nous aider si nous ne présentons pas les chèques complétés à la banque du ciel. Nous sommes donc incapables de comprendre pourquoi Christ a donné la procuration d'un si grand pouvoir aux êtres humains. Nous sommes seulement en mesure d'affirmer que c'est bel et bien vrai. Nous devons utiliser ce pouvoir illimité afin de faire descendre la bénédiction du ciel, oui, carrément de la faire descendre du ciel sur l'humanité souffrante. Si nous nous en servons pour notre propre gratification ou pour notre extension personnelle, il s'agit alors d'un usage abusif du pouvoir accordé. Cela serait très grave pour nous. Un incident du reste qui était survenu il y a quelques années à un évangéliste d'une église démontre le pouvoir du nom de Jésus-Christ face à des milliers de gens. L'évangéliste clamait aux assistants que s'ils croyaient fermement, sérieusement, sincèrement aux paroles du cantique qu'ils allaient entonner, il s'agissait du fameux cantique qui dit « Tout est possible, il suffit d'y croire. Everything is possible, only believe. » Alors, ils assisteraient le soir même à des miracles impressionnants. Et alors qu'ils s'exprimaient ainsi, nous avons remarqué un homme se faufilant rapidement par le bas-côté en direction de la tribune. Il s'est approché de nous. Son visage était déformé par une grimace démoniaque. Nous avons d'abord pensé que cette personne dérangée était venue pour semer le trouble. Nous avons évidemment appris plus tard que cet homme n'était pas fou du tout, mais qu'il avait la mauvaise réputation de pénétrer dans les églises de la région et d'y provoquer des troubles très sérieux. Il avait été arrêté pour cette raison-là, mais la prison ne lui avait pas servi de leçon, pas du tout. Il se trouvait donc en présence parmi nous, profitant d'une nouvelle occasion de semer le désordre. Il avait atteint la tribune et son attitude menaçante attirait évidemment l'attention des fidèles. Et nous avons fait remarquer à l'évangéliste ce qui se passait. Et puis deux policiers sont sortis des coulisses. Ils avaient anticipé ce qui allait se produire et se sont mis en devoir d'attraper l'homme. Il est fort probable qu'ils auraient pu l'arrêter, mais le choc aurait été de nature à ruiner carrément le service en cours. Ou si l'évangéliste s'est interposé et après avoir demandé aux fidèles de s'incliner pour tous prier ensemble, il s'est dirigé vers l'homme. Comme à son habitude, l'homme l'a interpellé et s'est mis à l'invectiver d'une terrible méchanceté, à le maudire d'une façon rageuse, terriblement méchante. Il lui a dit « Vous êtes le diable en personne et vous trompez les gens. Vous êtes donc un imposteur. Il y a certainement une anguille sous roche. Aussi, je vais montrer à votre auditoire qui vous êtes réellement. Un imposateur, un imposteur. » Donc, l'homme défiait carrément l'évangéliste. C'était naturellement une situation très peu confortable. Il était évident qu'il ne lançait pas des paroles en l'air. Aussi, alors que l'important continuait à vociférer des injures à l'évangéliste, il a levé la main pour mettre ses menaces à exécution. et les policiers sont de nouveau venus à la rescousse, mais l'évangéliste les en a empêchés. Et cette catastrophe imprévue semblait avoir atteint son paroxysme. Les incrédules, venus par simple curiosité, s'attendaient donc à une triste conclusion inéluctable. Et en ce moment de suspense, on ne pouvait pas s'empêcher de penser au temps ancien où Goliath maudissait le petit David au nom de ses dieux et se vantait même de pouvoir le mettre rapidement en pièces. Les minutes passent. Quelque chose s'est produit. Oui, quelque chose qui interdisait au provocateur de mettre ses menaces à exécution. L'évangéliste parlait posément, mais avec fermeté. Il dit « Satan, puisque tu as défié le serviteur de Dieu devant tous ces gens, tu dois, au nom de Jésus-Christ, maintenant tomber par terre. » Alors que le tout-puissant nom de Jésus-Christ était évoqué, nous avons assisté à une scène extraordinaire. Les forces animant le provocateur malveillant étaient carrément puissantes. Tout le monde pouvait le voir. Mais voilà, elles cédaient totalement au pouvoir puissant du nom de Jésus-Christ. L'homme qui avait accusé et menacé le serviteur du Seigneur avec une telle rage, avec un tel aplomb, s'est tout à coup, subitement affaissé dans un gémissement terrible. Il s'est écroulé par terre en sanglotant de manière hystérique. Le nom, le puissant nom de Jésus-Christ avait provoqué ce résultat. Gloire à Dieu, car il n'est pas sous le ciel d'autres noms donnés chez les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. C'est le plus grand de tous les noms. Ce nom, chers amis, constitue votre pouvoir. Oui, par ce saint nom, toutes choses vous appartiennent. Jésus-Christ a dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Seuls les véritables croyants peuvent se servir du nom de Jésus-Christ. Ceux qui désobéissent à la volonté de Dieu n'y auront pas accès. Et croyez-moi, les démons ne se soucieront pas de leurs paroles. Ces derniers savent parfaitement différencier un véritable chrétien d'un simulateur, d'un menteur. La Bible dit que quelques exorcistes juifs, des juifs ambulants, avaient entrepris d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils imaginaient qu'il s'agissait d'une sorte de charme magique. « Je vous adjure, disait-il, par le Jésus que l'apôtre Paul proclame, Actes chapitre 19, verset 13. » Mais l'esprit mauvais leur a rétorqué ceci, « Jésus-Christ, je le connais, et Paul, je sais qui il est, mais vous, qui êtes-vous » Actes chapitre 19, verset 15. Et c'est alors que l'homme qui était possédé de l'esprit mauvais s'est jeté sur les juifs exorcistes et il les a maltraités de telle sorte qu'ils ont dû s'enfuir de la maison complètement nus et couverts de blessures. Chers amis, quel est le secret de notre pouvoir dans la prière? C'est le nom de Jésus-Christ, selon que le Père a donné tout pouvoir à son Fils bien-aimé, le Fils également, croyez-moi, lui, le Fils Jésus-Christ, a donc donné tout pouvoir à nous autres, à vous, les croyants. C'est donc le pouvoir de son Saint-Nom et le pouvoir de son autorité. Oui, Christ n'a cessé de répéter cette promesse. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon Saint-Nom, je le ferai. Saint Jean chapitre 14, verset 13. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Hein? Toujours dans Saint Jean chapitre 14, verset 14. Ce que vous demanderez au Père, alors, il vous le donnera tout simplement en mon Saint-Nom. Donc, n'hésitez pas, demandez et vous recevrez pour que votre joie soit en plénitude. Saint Jean chapitre 16, versets 23 et 24. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront donc les mains sur des malades, et ceux-ci iront bien, iront, s'éloigneront, guéris. Saint Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Oui, en effet, tout est possible, crois seulement. Only believe in the power, in the name of Jesus Christ. Et troisièmement, nous avons le secret de la foi qui déplace les montagnes. La Bible dit, Jésus-Christ leur dit, « Ayez foi en Dieu, car en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Soulève-toi et jette-toi dans la mer », et s'il n'hésite pas en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit va arriver, il l'obtiendra. Voilà pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous l'obtiendrez. Saint Marc, chapitre 11, versets 22 à 24. Donc, dans ces versets, Jésus-Christ affirme qu'il est possible de faire déplacer une montagne si on ne doute pas en son cœur et que l'on croit fermement que ce que l'on dit se produira. Jésus fait cette proclamation stupéfiante alors même qu'il marche physiquement sur un mont, c'est-à-dire le mont des Oliviers. La veille, il avait traversé le mont de Béthanie. Ayant aperçu un figuier au loin, il s'est arrêté dans le but de manger des fruits. Il avait faim, mais l'arbre n'avait que des feuilles. Alors il a dit au figuier que jamais plus, désormais, de toi, personne ne mange de fruits. Saint Marc, chapitre 11, verset 14. Entendant cela, les disciples ont regardé l'arbre sans voir au premier abord qu'il s'était produit quelque chose. Ils n'ont rien vu pour le moment. Les feuilles du figuier étaient toujours vertes. Mais voyez-vous, le lendemain, faisant le trajet en retour, ils ont été stupéfaits de constater que le figuier s'était desséché depuis les racines. Se souvenant de ce qui s'était passé la veille, l'apôtre Pierre a dit à Jésus, « Rabbi, vois, le figuier que tu as maudit est totalement desséché. » Saint Marc, chapitre 11, verset 21. Cette remarque de l'apôtre Pierre a suscité la merveilleuse déclaration du Seigneur à propos de la foi. Au moment même où Jésus-Christ avait pris la parole, le figuier était mort. Mais il fallait bien entendu du temps avant que les résultats soient visibles. C'est la même chose pour certaines maladies. Hein? La maladie peut être guérie, mais il faut le temps de ce qu'elle puisse se guérir, se cicatriser, etc. Et par cet incident stupéfiant, Jésus-Christ a révélé un autre secret essentiel de la prière. Croire fermement en priant, c'est toujours recevoir. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous l'obtiendrez. Saint Marc, chapitre 11, verset 24. Il ne faut pas croire que nous recevrons ultérieurement, car cela reviendrait à nier que Dieu a déjà exaucé la prière et à nier que Dieu a tenu parole. Il faut croire que notre prière est exaucée immédiatement, même si rien ne prouve le moindre changement apparemment. Jésus-Christ a enseigné que la prière est exaucée à l'instant même où elle est prononcée avec une profonde foi, bien que l'œil ne puisse encore rien, absolument rien, détecter. Il faut louer Dieu d'avoir exaucé nos prières comme Jésus louait Dieu pour la résurrection de Lazare alors qu'il était encore au tombeau. Jésus-Christ a levé les yeux en haut et a dit « Père, je te rends grâce de m'avoir exaucé. » Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, ici, dehors !» Et le mort sortit. Saint Jean, chapitre 11, versets 41, 43 et 44. Donc, il faut croire que nos prières sont instantanément exaucées parce que la parole de Dieu affirme que nous sommes exaucés. C'est la révélation suprême que Jésus-Christ nous a faite à propos de la foi. Nos sens naturels ne sont en aucun cas sollicités. Si nous croyons avec la foi profonde, avec une confiance absolue, l'invisible deviendra visible. Et le visible deviendra invisible. Les symptômes disparaîtront. Et tout comme les feuilles du figuier se sont desséchées. C'est le secret pour recevoir les choses de Dieu. Si nous ne les recevons pas, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas dignes de la bénédiction, parce que nous avons fait de longues prières ou parce que nous avons un grand besoin de ce que nous demandons. La foi ne tient jamais compte des conditions. La foi ne tient jamais compte des symptômes. Elle les méprise, les rejette, les considère avec indifférence. La foi ne dépend de rien qui soit en rapport avec le sens naturel. La foi a créé le monde. Là, où il n'y avait absolument rien. La foi n'est que la foi en soi parce qu'elle ne voit rien. Elle devient visible après avoir été exaucée. La foi ne requiert qu'une seule condition, qu'elle dépende de la parole de Dieu. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous l'obtiendrez. La Bible parle de la foi comme un grain de senevé. Oui, comment la foi peut-elle déplacer les montagnes? Les gens estiment, pour la plupart, qu'il est absolument impossible de parvenir à un tel degré de foi. Pourtant, cette foi ne relève pas du domaine phénoménal, mais plutôt de la foi persévérante, de l'insistance. Et cette foi ne faiblit pas en dépit des épreuves. Oui, cette foi ignore le témoignage des sens naturels et considère la parole de Dieu comme l'autorité après, en tant qu'absolue, comme l'autorité suprême. Donc la foi d'un grain de senevé n'a rien de spectaculaire. Semez le grain dans le sol. Si vous le déterrez le lendemain, alors, évidemment, vous ne constaterez aucun changement visible. Regardez-le une semaine plus tard et les choses auront encore à peine changé. Mais, voyez-vous, il se sera néanmoins produit quelque chose au cœur de ce minuscule grain de senevé quelque chose a commencé à se mettre en mouvement. Des milliards de petits atomes se déplaçant et se replaçant de façon à créer les premières cellules d'un sénévé. Et dans l'obscurité du sol, un mouvement imperceptible mais bien réel a commencé. Le changement est extrêmement lent, mais il est continuel. Enfin, après quelques jours, une toute petite pousse émerge du sol. Elle grandit de plus en plus, jusqu'à ce que sa taille corresponde à la volonté de Dieu, jusqu'à ce que les oiseaux du ciel puissent même venir nicher dans ses branches. La foi, comme le grain de sénévé, n'est pas spectaculaire en soi, mais elle est inexorable. C'est la foi, dit Jésus-Christ, qui fera déplacer les montagnes. Chers amis, où les gens se trompent-ils lorsque leurs montagnes ne se déplacent pas? Oui, généralement, voyez-vous, il n'est pas difficile d'en trouver la raison. La plupart d'entre eux sèment le grain de sénévé et puis ils reviennent le déterrer. Ils confondent la foi du grain de sénévé avec la foi instantanée. Ayant semé le grain de leur attente, ils retournent presque aussitôt pour l'examiner. Et le changement n'étant pas celui qu'ils envisageaient, ils croient que rien, absolument rien, ne s'est produit. Ils disent alors « Je suis toujours malade, j'ai toujours mal, donc c'est inutile d'y penser. La foi, ça vaut rien. Mes symptômes n'ont pas disparu, je ne suis donc pas guéri. » Par cette confession, ils font quoi? Ils déterrent le grain de leur foi et ils acceptent leur défaite alors que la victoire est déjà en route. En effet, le grain a commencé à croître au moment même où ils l'ont semé, mais voyez-vous, leur foi est trop hésitante. La foi comme un grain de sénévé pouvant déplacer les montagnes, ils imaginent tout simplement que la petite graine pourrait devenir un arbre d'un seul coup. Ils pensent que ça doit se faire immédiatement. On sème quelque chose et l'arbre et même les fruits doivent déjà être sur l'arbre. Cela ne se produit pas ainsi. Ils se déclarent donc vaincus. Un évangéliste croyait en Dieu et 400 000 personnes assistaient à son service. En effet, il y a quelques années, une église reçut une lettre de l'évangéliste Tommy Hicks. Et dans son courrier, il les informait qu'il avait l'intention de se rendre en Argentine pour initier un réveil spirituel. Il disait qu'il avait longtemps prié à cet effet et que l'heure était venue pour lui de partir. Il ajoutait qu'il savait que Dieu lui accorderait une moisson abondante dans ce pays. L'Argentine n'était pas un terrain très facile. Oh non, la nation était sous l'emprise d'une dictature très sévère. Il faut dire que l'évangéliste ne connaissait pas du tout le nom du dictateur argentin. Arrivé au Pérou, dans la ville de Lima, alors qu'il priait, Dieu lui a parlé d'un dénommé Perron. L'évangéliste s'est renseigné au bureau de la compagnie aérienne où on lui a répondu que Perron était le nom du président de l'Argentine. Monsieur Hicks était certain que Dieu voulait qu'il s'adresse personnellement à cet homme. Et lorsqu'il est arrivé à Buenos Aires, il a fait part de son intention à ses amis. Ceux-ci étaient loin d'encourager l'évangéliste. L'un d'eux a même ajouté que son projet était insensé parce que Perron était entouré de gardes du corps et d'agents secrets et que personne, hormis les hauts fonctionnaires, n'était autorisé à le rencontrer. Tommy Hicks restait néanmoins convaincu que Dieu ouvrirait la voie. Il a donc décidé de faire une tentative d'entrevue. Au palais, il a demandé à rencontrer le président. il lui a été répondu que c'était absolument impossible. Cependant, alors qu'il était au palais, un garde est subitement tombé très malade. Aussi, frère Hicks a prié pour le garde, et celui-ci a été guéri. Or, cet incident a totalement modifié la situation, de sorte que l'évangéliste a été invité à rencontrer le président dès le lendemain. D'une manière ou d'une autre, Dieu a pris part à cette entrevue. L'évangéliste a trouvé grâce auprès du président, qui lui a accordé la permission inouïe de lancer une croisade de réveil spirituel, dans le plus grand stade du pays. Et c'est ainsi que la croisade a commencé. Les gens sont bientôt arrivés en masse et 200 000 personnes ont rempli le stade. Avant que cette croisade se termine, on a rapporté qu'il y avait le même nombre de personnes à l'extérieur du stade, réclamant le droit d'y pénétrer. La nation d'Argentine s'est donc émue des prières et de la foi du peuple de Dieu. Chers amis, voyez-vous, lorsque Jésus-Christ a parlé de faire déplacer les montagnes, voulait-il désigner les montagnes matérielles? Nous avons déjà vu que l'expression « montagne » est applicable au figuré. La montagne peut signifier une forte opposition qui empêche notre progression. Mais, en fait, la promesse de faire déplacer les montagnes inclut les montagnes matérielles parfois également, bien que rares soient les circonstances où il soit nécessaire de déplacer concrètement une montagne. Or, voyez-vous, dans l'évangile de saint Marc, Jésus-Christ a parlé de cette montagne, selon saint Marc chapitre 11, verset 23. Il se tenait sur cette montagne dont il parlait. Il s'agissait du mont des Oliviers, situé face à Jérusalem vers l'Orient. Or, la prophétie, elle annonce que le mont des Oliviers sera un jour déplacé de sa situation actuelle. Lors du grand jour du Seigneur, alors que le jugement tombera sur les nations qui ont attaqué Jérusalem, le Seigneur Jésus-Christ se tiendra debout sur le mont des Oliviers, et ceci à proximité de l'endroit où il a maudit le figuier. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu et une moitié reculera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Et l'eau coulera par l'endroit même où était jadis le mont des Oliviers. La Bible nous dit « Ses pieds se poseront en ce jour-là sur le mont des Oliviers qui est en face de Jérusalem à l'est. » Le mont des Oliviers se fendra en deux par son milieu vers l'Orient et vers l'Occident en une très grande vallée. Une moitié de la montagne se retirera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Et la vallée de mes montagnes sera obstruée depuis Goa jusqu'à Yassol. Elle sera obstruée comme elle le fut à cause du tremblement de terre au jour d'Ozias, le roi de Juda. Et le Seigneur, mon Dieu, viendra, et tous les saints avec lui. Or il adviendra en ce jour-là que des eaux vives sortiront de Jérusalem, la moitié vers la mer orientale et la moitié vers la mer occidentale. Ce sera en été comme en hiver. Ézéchiel, chapitre 14, verset 4 jusqu'au verset 8. Donc, Dieu a fixé le temps pour le déplacement des montagnes, et ceci dans le livre de l'Apocalypse. Saint Jean indique qu'après l'ouverture du cinquième sceau, les âmes des martyrs crient carrément à Dieu Et il crie en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véridique, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang en le redemandant à ceux qui habitent sur la terre ?» Et il leur fut dit de se tenir en repos encore un peu de temps, jusqu'à ce que fussent au complet et leurs compagnons d'esclavage et leurs frères qui vont être tués tout comme eux. Apocalypse chapitre 6, versets 10 et 11. Mais Dieu n'oublie pas jamais leurs prières. Il tarde en raison de sa miséricorde afin que tout homme ait l'occasion de se repentir. Il faut donc cependant qu'un jour la grâce arrive à sa fin. Les anges s'apprêtent à sonner de la trompette, et l'un reçoit beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Apocalypse chapitre 8, verset 3. Bien sûr, je vous dis cela un peu par cœur, selon des versions allemandes, mais c'est quand même dans le sens que vous pourrez le relire dans la version second. Voyez-vous, que se passe-t-il ensuite? Ça, c'est intéressant à savoir. Ces prières seront-elles exaucées? Évidemment. L'un des premiers jugements est quelque chose comme une grande montagne brûlée par le feu, nous est-il dit, et jetée dans la mer, selon Apocalypse chapitre 8, verset 8. Les hommes, priant selon la volonté de Dieu, ont changé des choses plus impressionnantes que des montagnes. Au jour de Josué, les enfants d'Israël combattaient à outrance contre les habitants de Canaan. Ils avaient remporté une grande victoire, mais voyez-vous, ils étaient sur le point de perdre les fruits de leur victoire à cause de la nuit tombante. Or, leurs ennemis, familiers du pays, pourraient fuir carrément dans les montagnes à la faveur de l'obscurité, et les enfants d'Israël seraient donc absolument incapables de les rattraper ou de les trouver. Et c'est alors que, voyez-vous, Josué, en présence d'Israël, a commandé au soleil et à la lune de stopper leur course. Et le soleil et la lune lui ont obéi. Incroyable, mais vrai. Alors Josué parla à l'Éternel et il dit en présence d'Israël, « Soleil sur Gabaon, arrête-toi, et toi, lune, arrête-toi sur la vallée d'Ayalon. » Le soleil s'arrêta et la lune se tint immobile jusqu'à ce que la nation se fût vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit sur le livre du juste? Le soleil se tint immobile au milieu du ciel et retarda son coucher près d'un jour entier, est-il écrit dans Josué, chapitre 10, et je crois le verset 12 et 13. Donc, si ce miracle ne vous paraît pas suffisant, alors considérez Isaïe. La prière d'Ézéchias a été exaucée. Oui, j'ai entendu ta prière, est-il dit, et j'ai vu tes larmes. Voici que j'ajoute à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la poigne du roi d'Assur, et je protégerai cette ville. Isaïe, chapitre 38, versets 5 et 6. Et puis Isaïe a fait reculer de 10 degrés sur les degrés d'Aja l'ombre que le soleil a fait descendre. Et sur le cadran du soleil, oui, le soleil recula de 10 degrés, est-il dit dans Isaïe, chapitre 38, verset 8. Voyez-vous, ceci est le secret de la foi qui transporte les montagnes. Oui, c'est la foi qui est fondée sur la parole de Dieu et selon la volonté de Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'une foi passagère, surtout pas. Mais nous avons besoin de la foi d'un grain de sénévé qui ne s'amoindrit jamais jusqu'à l'accomplissement total de la requête. Donc, l'exécution de la promesse ne dépend ni de la vue ni de la sensibilité d'une personne. Elle dépend de la seule parole du Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous l'obtiendrez. Gloire soit rendue à Yahvé l'Éternel. » Merci Seigneur de ce que tu es la résurrection et la vie. Oui, tel que Yahvé l'Éternel, qui du temps de Jonas commandait la tempête, tu as également commandé le vent et la mer quand tes disciples étaient effrayés. Oui, tel l'Éternel, quand Myriam devint lépreuse, Moïse cria à l'Éternel de la guérir. Et il est vrai que le septième jour, elle fut guérie. Et toi, Jésus-Christ, tu as également guéri les lépreux, et même quand le centurion vint vers toi pour son domestique, eh bien, tu as prononcé les paroles de guérison selon la fantastique foi du centurion. N'as-tu pas dit que celui qui croit en toi, les miracles que tu faisais, il le ferait aussi, et même parce que tu t'en allais vers le Père, il nous serait ainsi possible de faire des miracles encore plus grands. Merci parce que, à l'instant que nous prions maintenant, tu vas agir.